Bonjour à tous. Au vu des directives gouvernementales et des mesures de protection conseillées par nos autorités fédérales, le consistoire de la paroisse de Épubleny a pris la décision de suspendre toute activité ecclésiale au sein de sa communauté. Cultes, réunions de prière et d'études bibliques sont suspendues jusqu'au moins le 4 avril. Des informations supplémentaires vous seront communiquées en temps utile. Respectons les consignes données par nos autorités. La parole de Dieu nous invite à nous soumettre aux autorités. Mais ne tombons pas dans la paranoïa ni dans l'élaboration d'actions divines. Prions les uns pour les autres et gardons courage afin de traverser cette épreuve avec l'aide du Seigneur. Sachant que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, gardons les yeux fixés sur notre Père et sur ses promesses. C'est le message que vous avez reçu suite à l'invasion épidémique mondiale du Covid-19, dit coronavirus. Cette décision gouvernementale nous éloigne les uns des autres, frères et sœurs, mais j'aimerais partager avec vous un encouragement à nous approcher, à nous rapprocher, à nous approcher, tiré de quelques passages de la parole de Dieu. Je vous invite à ouvrir vos Bibles au psaume 73. Psaume 73, verset 28, le dernier verset de ce psaume. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Et un autre texte dans le Nouveau Testament, Épître aux Hébreux, chapitre 12, versets 18 à 29. Hébreux 12, 18, 29. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur fût adressé aucune de plus. Car ils ne supportaient pas cette déclaration: si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit: je suis épouvanté et tout tremblant. Verset 22. Mais vous vous êtes approché de la montagne de Sion, de la cité de Dieu, du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Verset 25. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent encore d'entendre celui qui publiait les oracles de la terre? Combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Lui, dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse: une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et crainte, car notre Dieu est aussi un Dieu et un feu dévorant. Jusque-là, les lectures. Père, que nous puissions être devant toi, devant ce texte, et entendre ta voix. Nous te prions parce que tu es notre Dieu, et que, quelle que soit la situation, nous voulons nous attendre à toi. Éclaire-nous, montre-nous ton chemin, et fais-nous entendre ta voix. Amen. Devant la situation, nous pourrions nous poser pas mal de questions, et le monde entier ne s'en est pas privé. Mais que fait Dieu dans tout ça? Oh, c'est peut-être le commencement de l'Apocalypse. Qu'avons-nous fait pour être punis comme ça? Face aux événements qui nous entourent, chaque personne réagit différemment. Et nous? Nous voyons d'un côté des gens inquiets, mais calmes et posés, et d'un autre des foules dévalisant les supermarchés de leurs marchandises. Pourtant, le message était clair. Il y a suffisamment de stock pour tout le monde. Mais enfin, qu'est-ce qui déclenche donc chez les uns une certaine sérénité et chez les autres une angoisse au point de devenir presque hystérique? Personnellement, je pense qu'il y a un manque d'écoute et de confiance. Plusieurs attitudes. J'ai entendu le message, mais je ne l'ai pas écouté. Ou autre, j'ai entendu le message, je l'ai écouté, mais je ne le crois pas. Ou encore, j'ai entendu le message, je l'ai écouté et j'ai compris. Il en est de même avec la Bible. Je peux lire sans vouloir écouter. Je peux lire sans vouloir y croire, vraiment. Ou je peux lire parce que je veux entendre ce que Dieu me dit. Dans le premier verset que nous avons lu, l'auteur déclare que pour lui, s'approcher de Dieu, c'est son bien. C'est son bonheur. Il connaît Dieu. Il sait que, quoi qu'il arrive, c'est son seul refuge. Et en déclarant qu'il va raconter les œuvres du Seigneur a fait, il exprime sa foi en ce Dieu qui est au-dessus de tout et qui est de toute éternité. À la même épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 6, voilà ce qui nous est dit. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et en français courant, voilà ce qu'on nous dit. Or, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Un peu plus loin, dans la même épître, nous trouvons le passage que nous avons lu, Hébreux 12, verset 18. Dans les premiers versets, il commence comme suite. « Vous ne vous êtes pas approchés. » Et vient ensuite une description de la présence de Dieu sur le mont Sinaï. Nuées, tempêtes, ténèbres, retentissements de trompettes, voix, etc. Ouf, il est vrai que c'est quand même effrayant comme situation. Le verset 21 nous parle d'un spectacle horrible. La version en français courant écrit un spectacle terrifiant. Personne à l'époque ne pouvait toucher la montagne, même pas un animal. Moïse lui-même, qui parlait face à face avec Dieu, était épouvanté et tout tremblant. Personne ne pouvait s'approcher. Dieu est saint. C'est pas n'importe qui, c'est pas un pote sur lequel on frappe l'épaule. C'est le Dieu que l'on approche avec respect. Dans ce récit, le peuple n'était pas autorisé à s'approcher. Il devait garder une certaine distance, de même que le sacrificateur au temple de Jérusalem n'était autorisé que d'entrer dans le lieu saint, et exceptionnellement dans le lieu très saint. Présence suprême de Dieu sur terre, qu'une seule fois par an. Mais Jésus, en venant nous rencontrer, a déchiré le voile qui nous séparait de Dieu. Il a ouvert la voie pour s'approcher sans angoisse ni terreur, mais dans la crainte respectueuse que le Seigneur mérite. Dans Hébreux 12, à partir du verset 22 et jusqu'au verset 24, l'auteur de l'épître nous montre sept rencontres que le chrétien fait quand il s'approche de Dieu. La première rencontre, nous venons à la cité de Dieu. Mais vous vous êtes approché de la montagne de Sion et de la cité de Dieu. En fait, la montagne de Dieu était le lieu où David avait fait le centre religieux de son royaume en y apportant l'arche de l'Alliance. Plus tard, quand Salomon y bâtit le temple, Sion ou Jérusalem est devenu synonyme de l'habitation de Dieu sur terre. En Christ, nous nous approchons de sa contrepartie céleste, la Jérusalem spirituelle d'en haut. Dieu est esprit, et il faut l'adorer en esprit et en vérité. Or, nous sommes déjà maintenant en esprit citoyens de la cité céleste, et nous pouvons jouir de ce privilège. Deuxième rencontre, nous venons en contact avec les anges. Vous vous êtes approché de la Jérusalem céleste avec myriades d'anges qui chantent. Moïse nous dit que des saintes myriades ont assisté à la remise de la loi, dans Deutéronome 33, verset 2. Et de Daniel, nous apprenons que 1 000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence, en parlant de l'Ancien des Jours, Dieu lui-même, dans Daniel 7, verset 10. David, dans le psaume 68, au verset 18, nous décrit le nombre des chars de l'Éternel, par milliers et par milliers. Lorsque Jésus naîtra, une immense chorale de l'armée céleste s'entra en présence des bergers, dans Luc 2, 13. Les anges sont partout, puissants, flamboyants. Ils sont au service de Dieu. Et comme le dit Hébreux 1, 14, ils sont aussi envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Troisième rencontre, nous entrons en contact avec les autres croyants de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Autrefois, c'était le premier-né qui, par son droit d'aînesse, était le prioritaire, et aussi en termes d'héritage. En Jésus, qui est par excellence le premier-né inscrit dans les cieux, nous le sommes nous aussi, par notre union à lui. Tous les droits de l'héritage nous reviennent également. Paul, aux Romains, chapitre 8, verset 10, dira que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Nous ne faisons pas que rencontrer. Nous sommes membres, membres de sa famille, membres les uns des autres. Quatrième rencontre, nous venons à Dieu. Dieu juge de tous. Nous venons avec crainte et respect, parce qu'il est le juge. Nous n'avons pas à craindre ce juge, parce que Jésus a porté notre condamnation. Nous n'avons plus à avoir peur du jugement, ni de peine que nous pourrions encourir suite à nos fautes et péchés. C'est là notre joie de rencontrer ce Dieu, même s'il est juge. Cinquième rencontre, nous venons devant l'Église céleste qui nous a devancés. Des esprits de justes parvenus à la perfection. Bien qu'ils soient au ciel, nous sommes solidaires de ceux qui sont passés avant nous. Abraham, Moïse, David, Paul, toute cette nuée de témoins, disciples morts et vivants éternellement en Jésus-Christ. Sixièmement, nous venons à Jésus. Jésus, seul médiateur de la nouvelle alliance. C'est par Jésus que nous sommes libres et que toutes les promesses s'accomplissent pour nous. Il est la source d'eau vive. Il est en nous et nous sommes en lui. Et septièmement, nous parvenons au pardon à cause du sang versé. Le texte nous dit du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang d'Abel, tué par son frère, qui était le premier meurtrier de l'humanité, criait vengeance et appelait à la condamnation. Pour nous, le sang de Christ proclame que nous sommes pardonnés. C'est cette approche ne sont pas pour moi tout seul, en tant qu'égoïste, moi, l'homme tout seul, non, c'est pour tous. Tous est pour l'Église, corps de Christ. C'est une réalité. L'Écriture nous dit que par l'Église, nous nous sommes approchés maintenant de ces sept merveilles du monde spirituel. Nous nous sommes approchés de la cité de Dieu, des myriades d'anges, des autres croyants, de Dieu, de l'Église triomphante, de Jésus, du pardon. Si nous ne nous rendons pas compte de ces privilèges que nous avons en tant que chrétiens, rien ne pourra nous convaincre. Et si nous sommes convaincus, alors explosons de joie, même confinés chez nous. Si nous ne pouvons pas nous réunir en église locale, soyons assurés que nous pouvons nous approcher de ce Dieu vivant, sans crainte. La seule contamination que nous pourrions contracter, c'est son amour exceptionnel. Pour terminer, je vous demanderai de relire les versets 25 à 29 de l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, et souvenez-vous qu'il n'y a pire sourd que celui qui ne veut entendre. Si Dieu ébranle la terre pour un temps, c'est pour montrer son royaume inébranlable, afin de lui rendre un culte agréable, avec piété et crainte. Que nous puissions, nous, nous ressourcer ensemble, en esprit, même si nous sommes séparés de corps. Que Dieu vous bénisse. Amen.